I know how it sounds.
La sex exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sex exploratrice.
Radio X.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bonsoir, mon cher collègue Max.
Bonsoir.
Et bonsoir aux gens qui nous suivent sur le live TikTok de moi-même et de nos deux invités. Il y a du monde à mettre ce soir. N'oubliez pas que l'on répond seulement au texto via le 418-670-9098. Si vous avez des commentaires, des suggestions, si vous voulez tout simplement interagir avec nous, c'est via le texto que l'on pourra répondre tout au long de l'émission.
Absolument!
Yes!
Comment ça va?
Ça va très bien, toi?
Ça roule, merci.
Yes! Il n'y a pas de « ça roule ma poule » à soir.
« Ça roule ma poule! »
Ah, merci! ça roule en titi. Écoute, c'est ça, ça n'arrête pas de bien aller de mon côté. J'espère que toi aussi.
Ouais. Ah non, ça va mal.
Ah oui, hein?
Justement,
juste qu'on en parle.
Parler. Non, ça va très bien. Ça va très bien. Passer un beau week-end. Ça a été mouvementé, mais passer du bon temps avec la demoiselle. Et toi, qu'est-ce que t'as fait ce week-end?
Hey, c'est-tu quoi? J'ai fait rien.
Rien partout.
Avec mon fils.
Tu te sens-tu coupable de ça?
Ça fait tellement du bien, là, puis lui aussi, ça y a fait du bien.
Ouais.
Tu sais, de pas rien avoir de prévu, de pas... Ça fait comme 4 week-ends, là, qu'on a des trucs de s'atteler tout le temps. Puis en fin de semaine prochaine encore, on souligne son anniversaire. On est en train de faire la fête à mon fils, un véritable festival. Fait qu'on a pris une pause ce week-end. Sérieusement, ça fait tellement du bien, puis je pense qu'il y a un certain moment dans notre vie quand on apprend à être bien seul avec nous-mêmes, là, puis à apprécier les moments de solitude... C'en est presque dangereux.
Absolument. Je pense que la vie aujourd'hui a un rythme tellement effréné que d'avoir ces petits îlots-là de repos où on peut recharger nos batteries, c'est extrêmement
nécessaire.
Recharger
les batteries, c'est bien dit. C'est exactement ça que je vis, en fait, quand je m'arrête puis que ça me fait vraiment du bien. Contrairement à avant, où dès que je me retrouvais seule... Oh non, mais là, il faut que je trouve un ami pour faire une activité. C'est comme si c'était impossible pour moi d'envisager un week-end sans rien. D'avoir de prévu.
C'est un
là.
Réflexe de survie.
Réflexe de survie, vous entendez, mesdames et messieurs, docteur Paul Simard, psychologue qui est avec nous. On lance tout son. On va le faire tout de suite. Hein, qu'est-ce que t'en penses? On fait tout de suite.
J'écoute.
On l'a prévu pour tantôt, mais sûrement que c'est prêt à l'être.
Le doc. Le thérapeute compatissant, bienveillant.
Bonjour, docteur.
Le docteur Paul Simard, psychologue.
Tout un thème, ça, mon Paul.
Merci.
Max, c'est ses thèmes parfaits. On a également... Oui?
La survie, un jour, on s'en affranchit de ces stratégies-là. On peut les dépasser en développant des nouveaux réflexes, peut-être des nouvelles habitudes, mais ça a la vie dure. On peut maintenir ça longtemps, ces réflexes-là.
Le réflexe, tu veux dire de
chercher dans l'autre ou de...
Oui!
Que notre sécurité soit dans la présence de d'autres personnes autour. C'est la vie en tribu. On est plus forts ensemble.
C'est ça, exactement. Puis c'est pas mal en soi tant que vous êtes capable d'avoir des moments de solitude.
Exact.
Parce que là où il y a un problème, je pense que c'est quand tu te sens tu te sens complètement seul au monde et pas bien quand tu te retrouves seul avec toi-même. Là. C'est ça qui est pas sain, en fait.
C'est une sorte de traversée du désert qui est reliée un peu à l'anxiété aussi. Hein? Parce que là, on va s'inventer toutes sortes d'histoires sur qu'est-ce qui va arriver si d'un coup que ça se passe pas. Puis
donc,
l'apprentissage de cette traversée du désert-là, de l'anxiété, de la solitude, il y a beaucoup de similitudes.
Mmh. Et on parle justement d'anxiété ce soir en compagnie de Dr Paul Simard, psychologue, mais aussi en compagnie de Julie Delisle.
Bonsoir.
Bonsoir, Julie. Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci de l'invitation.
Je sais que c'est tard pour toi, donc c'est exceptionnel que tu sois là et j'en suis très heureuse, très sincèrement.
Très contente d'être ici aussi.
On va parler d'anxiété, mais avant d'aller un peu plus loin avec ton expérience à toi, ton vécu à toi, je vais y aller avec Max. Toi, Max, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ou de vivre une attaque de panique? Et chers auditeurs, si vous avez des histoires à nous raconter sur votre première attaque de panique ou quels sont vos trucs d'ancrage lorsque ça vous arrive, écrivez-nous au 418-670-9098 et on va vous lire en ondes. On va peut-être même ouvrir les lignes à la fin de l'émission. Donc, toi, Max, est-ce que ça t'est déjà arrivé?
Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Mais moi, généralement, je suis pas quelqu'un qui entretient de l'anxiété au quotidien. Donc, ça, c'est dit. Mais il m'est déjà arrivé dans le passé, bon, durant ma vie, j'ai eu une certaine période à vide qui a été plus ou moins longue. Et durant cette période-là, je me souviens d'une journée en particulier où je me suis mis à... J'étais plongé dans la solitude, bon, après ma barre dans mon appartement. Et tout d'un coup, je me suis mis à avoir des palpitations. Je me suis mis à me lever dans mon appart. Je faisais les 100 pas, comme si j'avais du mal à rattraper mon souffle. Puis justement, pas, là. À ce moment-là, je me suis dit, Écoute, je suis en train de faire une crise cardiaque, moi, là. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai paniqué. J'ai appelé un taxi pour me rendre à l'hôpital. Dans le taxi, j'étais en complète hystérie. Je regardais le gars. T'avances-tu? T'avances! J'étais paniqué, raide. Je me suis rendu à l'hôpital. Et là, forcé d'admettre que lorsque je suis arrivé en salle d'urgence, ben, les urgentologues qui étaient là m'ont fait passer des tests. On m'a mis un électrocardiogramme. Et là, ils ont rapidement compris que j'étais en crise de panique et qu'il n'y avait pas de danger pour mon cœur. Et c'est à ce moment-là, dans leurs yeux, que j'ai compris que j'étais en crise de panique. Parce qu'ils m'ont regardé, ils ont fait « Voyons, le gros, relax, là. » Relax. Puis là, je paniquais encore. Je leur demandais pourquoi ils me donnaient pas les soins nécessaires à mon potentiel rétablissement. Puis ils me disaient « Non, ça va passer, relax. » Puis ça me faisait encore plus paniquer. Mais...
D'avoir l'impression de ne pas être pris en charge.
Exactement.
Mais en réalité, ils te prenaient en charge.
Exact. Mais après un certain nombre de minutes, à peu près une demi-heure, là, la température descend.
Oui.
L'espèce d'hystérie revient au beau fixe. Et là, tu te rends compte que « Ah ben, coudonc, je viens de faire une crise de panique. » Mais c'est tellement prenant. On dirait qu'il n'existe plus rien dans ta tête, autant physiquement que mentalement, que l'émotion que tu vis à ce moment-là.
Moi, ma première crise de panique, ben, ma crise de panique, la seule que j'ai eue, en fait, et que j'ai eu peur de refaire après, là, je pense que j'ai eu peur de faire des crises de panique juste en y repensant, j'étais assis tranquillement au resto avec ma tante, mon fils sur moi, et tout à coup, je me suis mis à engourdir du visage. Et là, je pensais que j'allais faire un ACV ou un arrêt cardiaque ou whatever. Je me lève debout, je donne mon fils. J'ai comme semi-perdu la carte. Je me suis réveillée sur une banquette, ambulance, mon cœur débattait. Et c'est là où j'ai réalisé à quel point le mental, c'est fort. Parce qu'en réalité, j'étais pas en danger, mon corps était pas en danger. Mais il réagissait tout comme. Puis sérieux, moi, j'étais persuadée que j'allais mourir, là. Mais puis tous les signes, je veux dire, le corps réagit, là. Donc, mais on m'a rassurée à ce moment-là que c'était fort probablement une attaque de panique. Et depuis ce temps-là, juste d'y penser, on dirait que je me dis, oh mon Dieu, il faut que je me trouve des ancrages parce qu'on dirait que ça pourrait peut-être se reproduire. Ça ne s'est pas reproduit vraiment. Dès que j'ai un petit sentiment que ça s'en vient, oups, je réussis à me parler.
J'anticipe la catastrophe.
Et ça part. Mais il y a beaucoup de gens, je vais donner ma vision des choses. Paul, tu pourras me dire si je suis en chat ou pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent stress et anxiété.
Oui.
Le stress étant, je pense, une réaction du corps ou une réaction face à un événement pour faire face. Donc, une augmentation de cortisol, d'adrénaline pour réussir à affronter le danger.
Oui.
Alors que l'anxiété, c'est vraiment d'être dans l'anticipation de ce qui pourrait peut-être arriver. Puis que finalement, la majorité du temps, ça arrivera fort probablement pas. On est en anxiété absolument pour rien. Est-ce que c'est ça?
De manière générale, là, la définition, c'est la même pour les deux. C'est juste la fin de la définition qui change.
Okay.
Le stress, c'est un état de préparation à répondre face à un danger
présent.
Réel. Maintenant, c'est ça. Puis quand mon corps se prépare à répondre à un danger potentiel, peut-être, au cas où, on dirait que, ben, on appelle ça de l'anxiété. Mais ce sont les mêmes réactions physiologiques de faire face à un danger. C'est juste que le danger, est-il réel ou imaginaire ou potentiel? C'est là où il y a de la confusion dans les associations qu'on fait dans notre système nerveux.
OK.
Le traitement de ça, ça va impliquer de défaire le conditionnement des associations entre votre imagination de peut-être potentiel et ce qui se passe pour de vrai dans la réalité.
Dit que c'est que ça affecterait beaucoup plus les femmes que les hommes. Est-ce qu'il y a une question d'hormones en lien avec ça ou ça n'a pas rapport?
Je ne sais pas spécifiquement pour l'anxiété, mais la famille entière de troubles anxio-dépressifs, oui, c'est davantage observé chez la femme, mais là, il y a toutes sortes de réflexions à faire sur est-ce que c'est parce que les hommes négligent leur santé mentale tout comme ils tendent à négliger parfois leur santé physique en n'allant pas chez le médecin? En n'allant pas faire du dépistage, en disant « Bon, non, je suis fatigué, là, mais ça va passer. »
OK.
Quand un homme vous dit « Je suis fatigué », mesdames, comprenez que là, c'est rendu grave.
Oh, pour moi, l'anxiété fait partie de l'expérience humaine normale.
Ben oui.
Mais qu'est-ce qui fait que chez certaines personnes, ça dégénère plus que chez d'autres?
Ouais.
Le trouble anxieux, c'est bien différent de l'anxiété.
Il y a différents troubles anxieux quand même.
Ben oui.
OK.
Mais il y a des gens qui vont avoir de l'anxiété dans leur vie, là, puis ils vont la faire un peu... ils vont avoir une réaction de catastrophe par rapport à leur anxiété parce qu'ils refusent l'expérience. Mais moi, j'explique bien à mes patients en consultation que c'est normal d'avoir de l'anxiété. Mais lorsque ça devient un handicap sur le fonctionnement de la personne ou que ça perturbe la personne avec beaucoup de souffrance, là, on peut commencer à entrer dans ce qu'on appelle les troubles anxieux.
OK. Donc, on va y aller avec ça, Julie, avec ton vécu à toi. Puis, Paul, tu pourras intervenir aussi par rapport à son expérience et comment il le vit, si tu as des trucs à donner ou... Ou
moi,
des commentaires
c'est vraiment
à faire.
Au quotidien. En fait, moi, j'ai été diagnostiquée en cinquième année.
Ah oui?
Primaire. Ben, moi, primaire. J'ai toujours été une anxieuse. D'aussi loin que je me souvienne, là, à 4 ans, à les petites fêtes d'amis, à passer l'Halloween, j'étais pas capable de manger avant, j'avais mal au cœur, mal au ventre, même si c'était un événement qui m'excitait d'y aller. Puis en cinquième année, j'ai fait ma première attaque
de panique
en classe. J'ai dû sortir parce que je pensais que j'allais être malade, j'avais chaud, je voyais plus rien. Et de là, j'ai toujours eu peur d'avoir des... Ça s'est répété, les attaques de panique.
T'as peur?
Et c'est de mal filer, en fait. C'est mon agoraphobie, ça se manifeste un petit peu partout. Surtout si je suis loin de la sortie. Comme venir ici, c'est quand même assez...
C'est challengeant pour toi de venir ici.
J'aime
pourquoi?
Tellement ça. Parce qu'on est loin de la sortie, on est au troisième étage.
OK. Puis dans ta tête à toi, là, qu'est-ce que ça fait d'être loin de la sortie?
D'un coup, je fais le pas.
OK.
D'un coup, je fais le pas.
T'es bien entouré, si tu fais le pas.
Je
le
sais.
C'est plus fort que toi
mais
dans
c'est plus
ta
fort
tête.
Que moi, puis ça peut arriver. Moi, chez moi, c'est mon petit cocon, ça va bien. J'ai jamais fait de crise d'anxiété ou de panique chez moi. C'est vraiment si je dois sortir. Et là, quand je parle de je dois sortir, ça peut être juste. Ça a été aussi loin que juste aller porter les poubelles au bord du chemin quand j'étais ado.
Oui.
Oui, oui.
J'avais peur qu'il arrive quoi à ce moment-là?
C'est inexplicable. C'est vraiment. J'avais peur de rien. Pas peur de mourir.
T'avais peur d'avoir peur?
J'avais peur de mal filer. J'avais peur que ça déclenche une crise de panique. Puis moi, quand ça fait une crise de panique, ça prend 10 secondes. Et si je sors pas de l'endroit, c'est le choc vagal.
Donc,
et un choc vagal, c'est vomissement, diarrhée et tout. Là. On perd connaissance. C'est vraiment pas beau. Là.
Donc, est-ce qu'on parle d'une phobie sociale?
Pas du tout. Non, c'est vraiment agoraphobie. Et à ne pas confondre avec l'oclophobie, qui est la peur des foules. Parce que tout le monde me dit « Ah, t'as peur de la foule? » Non, l'agora, tu sais, c'est comme la place
du
marché.
Moi, je pensais que l'agoraphobie
non,
était justement une...
C'est pas la peur des foules. C'est vraiment la peur des grands espaces. C'est la peur... Ben en fait, même juste de sortir de chez moi, là. Ça peut être juste d'aller prendre une marche certaines journées que je suis incapable.
Je me rappelle, on en parlait il y a quelques années. Durant la pandémie, je pense, on se parlait un petit peu plus.
Tough, oui.
Puis là, c'était pas évident, là, juste l'idée de traverser le pont ou même de sortir.
Parce que je
justement.
Sortais tellement plus que j'étais bien. T'sais, j'avais plus d'excuses à donner à personne. Mais on peut pas se voir, on peut pas sortir. Donc, moi, j'ai vécu là, plus que la moitié de ma vie, le trois quarts de ma vie dans le mensonge, les excuses, l'évitement. Ah, finalement, je pourrais pas y aller, je suis fatiguée, je pourrais pas y aller, j'ai d'autres choses. Parce que j'avais honte. Puis moi, c'est ça que j'aimerais qu'on démystifie un petit peu, que ça soit moins...
Des tabouises.
Oui, que ça soit pas tabou, puis qu'on nous prenne pas tous pour des fous. Là, c'est pas... Comment j'expliquerais ça? C'est que moi, j'avais vraiment une honte d'en parler. Puis dans les dernières années, j'ai réalisé, même juste sur TikTok, que j'étais pas la seule, loin de là. Que beaucoup de gens ont des problèmes d'anxiété. Puis c'est vraiment...
Mais vraiment,
oh,
c'est beaucoup
Dieu.
Plus couru qu'on pense.
Moi, c'est
et des gens
jour.
Proches de moi, je l'apprends parfois par des podcasts auxquels ils participent, où là, les gens osent s'ouvrir. Ça, c'est magnifique. En la radio, comme ça, là, comme ce soir, là, j'ai l'impression qu'on est entre nous,
mais oui.
qu'on parle dans un salon, tu sais, mais... Il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. Donc, mais c'est propice à ça, l'ouverture et tout. Puis vraiment, il y a de plus en plus de gens qui osent en parler. Et je pense qu'il y a quand même des choses naturelles qu'on peut peut-être faire pour essayer de contrôler ce genre de situation-là. Doc, est-ce que je me trompe? Le sport, j'imagine que ça aide beaucoup.
J'aime mieux parler de maîtrise plutôt que de contrôle. Parce que le contrôle, c'est comme prendre la gorge. Il faut plus que je fasse des attaques de panique. Alors que la maîtrise, c'est plutôt comme jongler. C'est, ça reste en mouvement. Puis oui, c'est vrai que prendre soin de son corps, c'est une manière de dire à notre système nerveux, regarde là, je vais te donner tout ce que tu as besoin de l'activité physique, du sommeil, de l'alimentation saine, de l'élimination saine. Je vais réguler ta température, je vais être en contact avec les autres formes de vie, avec la nature, il n'y aura pas trop de vibrations. Donc, mon corps va apprendre que les décisions que je prends avec ma tête sont pour le sécuriser, pour en prendre soin. Donc là, il va relâcher normalement un peu, il va dire « OK, je suis en sécurité ». Puis là, de temps à autre, il va dire « On dirait que… » Donc là, il faut répéter à nouveau cette mécanique-là de soins.
C'est vraiment des montagnes russes, hein? Parce qu'il y a des journées que ça va super bien, que je suis capable d'aller au Brunet. Mais c'est vraiment, c'est mon copain qui fait l'épicerie. Moi, parle-moi pas du Costco, là, juste rentrer là.
Ah, mais ça, moi, j'haïs ça pour
mourir au cœur, je t'étourdis. faut que je sorte de là, tu sais, fait que... Mais, tu sais, je fais des baby steps, là, tu sais. Maintenant, je cours plus juste sur mon tapis. Je cours dehors aussi. Je vais au Brunet. Tu sais, je fais... Je me pousse, là. Je fais vraiment de la TCC, là, de la thérapie cognitive-comportementale.
Oui,
dans le fond, m'exposer. C'est vraiment ça qu'il faut faire, là.
Oui, parce que plus... Là, c'est une zone d'inconfort, mais au fil de le faire, ça va devenir une zone de confort.
Des
donc, tu commences par...
Ouais.
Et là, Julie, toi, ça fait extrêmement longtemps que t'es comme ça. Quand t'as rencontré ton conjoint avec qui t'es aujourd'hui mariée...
Oui.
Vous êtes ensemble depuis combien de temps?
7 ans et demi.
7 ans et demi.
Oui.
T'étais déjà anxieuse lorsque tu l'as rencontré. Est-ce que vous connaissiez avant ou il t'a découvert?
J'étais moins pire, étrangement.
OK.
J'ai eu vraiment des passes dans ma vie où c'était pas si pire, où j'étais capable d'aller magasiner à Place Laurier, j'étais capable de faire mon épicerie. Moi, j'ai vécu à Ottawa très longtemps, donc je faisais tout par moi-même. Mais c'est arrivé que j'ai dû laisser mon panier là, puis partir. Là,
oh mon Dieu, j'ai des souvenirs de ma petite maman qui s'est arrivée aussi.
Mais mon conjoint, il a comme découvert, à un moment donné, j'étais plus capable d'aller au restaurant, j'étais plus capable de faire ci, faire ça. Donc, je lui ai comme tout raconté, vraiment.
Tu cachais ça au début à ton conjoint.
Oui, c'est ça. On ment, on évite.
Est-ce que tu avais peur qu'ils ne comprennent pas? Parce que comme l'anxiété fait partie de l'expérience de vie humaine en général, on en vit tous à moindre mesure, est-ce que ça fait partie de la honte que tu entretiens peut-être encore aujourd'hui, que tu entretenais à l'époque, à savoir, ben écoute, oui, je suis atteint d'anxiété, mais on a l'impression que dans l'imagerie populaire, c'est facile à combattre.
Complètement, parce que la personne dit « Ben, de quoi t'as peur? Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive au métro? » J'ai pas peur de rien. Je sais qu'il arrivera rien. J'ai peur d'avoir une attaque de panique. Et le plus que j'ai peur, ben le plus que j'ai peur, puis le plus que... Ah, les sueurs, puis là, ça monte, puis t'as chaud, puis t'as mal au cœur, oui. Puis tu veux juste t'écraser à terre, puis là, ben j'ai peur du choc vagal. Donc, il est très compréhensif, mais il ne comprend pas du tout ce que je vis. Il comprend pas comme pourquoi ça fait ça. D'ailleurs, moi non plus. Ce qui est très frustrant, là, tu sais, tu parlais de l'hygiène de vie. Moi, je considère avoir une très belle hygiène de vie. J'ai même extrêmement diminué l'alcool, pas que je buvais beaucoup, mais tu sais, vraiment pour m'aider. Je fais de l'exercice énormément.
Ben, c'est parce qu'on peut te suivre sur TikTok, Julie. C'est quoi déjà ton nom sur TikTok?
With Julie, comme avec Julie, mais en anglais. Là, with Julie.
Tu manges bien? T'entraînes.
Je vais dehors, je bois pas beaucoup d'alcool.
T'es une femme
je fume pas.
Qui a un style de vie très sain, là. Je veux dire, c'est ça, on pourrait même te montrer là, sur TikTok, vous pouvez la trouver là, sur TikTok.
T'as
pas le style de vie d'une femme qu'on pourrait croire qui aurait des problèmes de santé mentale.
Non, je pense que les gens sont surpris, ouais.
T'as aussi beaucoup de problèmes de sommeil, par contre.
Énormément. Et moins je dors, plus je suis anxieuse.
Mais oui, c'est une roue qui tourne.
Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Puis ça me fait filer mal de mal dormir. Donc, tu deviens dans un pattern aussi qui devient un petit peu dépressif. Parce que c'est vraiment... Tout est enclenché, là, tu sais, puis tu fais tout pour aller mieux, puis c'est ça qui est frustrant.
Là, t'es pas médicamentée.
Là, je suis médicamentée. J'ai dû me résoudre à ça parce que je voulais vivre.
Puis ça, c'est une autre affaire, c'est que la médication, ça apporte aussi son lot d'inconvénients et d'effets secondaires indésirables.
Oui.
Fait que là, est-ce qu'on va s'ajouter des effets secondaires indésirables pour essayer de pallier à des effets négatif ou...
Puis il y a tellement, là, tu sais, les SSRI, SSNI, là, tu sais, il y en a tellement, le dosage, tu sais, je suis... En tout cas, c'est hallucinant tout ce que j'ai essayé. D'ailleurs, je suis encore en essai d'un nouveau. C'est ma 5e journée, je crois. Attends, ça va bien.
OK, t'es à ta 5e journée d'un nouveau médicament?
D'un nouveau médicament que je suis en essai.
OK.
C'est ça, je suis suivie, là, par une psychiatre. Puis c'est ça, j'ai aussi des benzos pour dormir. Bon, je recommande rien à personne de consulter votre médecin, mais moi, j'ai pas le choix de consulter. C'est rendu que je dormais là, 20 minutes par nuit. C'était de la vraie folie. Là.
Docteur Simard, quelle est la différence entre un psychologue et un psychiatre pour ceux qui ne le savent pas?
C'est pas la barbe, contrairement à ce que les auditeurs pourraient penser. Même s'ils viennent au même micro. On pourrait dire qu'un psychiatre, c'est d'abord un médecin qui a fait une spécialité en psychiatrie. Allez, un psychologue, c'est quelqu'un qui a fait un parcours que en psychologie. Donc, on ne prescrit pas de médicaments quand on est psychologue, quoiqu'il y a que certaines exceptions très rares avec le Collège des médecins. Mais normalement, les psychiatres sont davantage spécialisés vers la pharmacothérapie et les psychologues sont davantage spécialisés en psychothérapie, quoique certains psychiatres peuvent faire de la psychothérapie.
Ouais, tu ne vas rien pouvoir me prescrire à soi?
Je peux te prescrire de la bonne humeur.
Moi, j'ai plein d'affaires dans ma sacoche.
Ah bon, ben là, regarde, il y a du
chers
bon là-dedans.
Chers amis, vous ne me croirez pas si je vous dis qu'on doit déjà aller à la pause. Ça n'a pas de bon sens.
Oui.
Il me semble qu'on vient de d'ouvrir. Continuez de nous écrire au 418-670-9098. En tout cas, Julie, t'es pas toute seule d'agoraphobe. Il y a des gens sur le live qui mentionnent l'être aussi. Il y a quelqu'un qui demande, avant d'aller à la pause, est-ce que mademoiselle a déjà essayé de dormir avec une couverture lestée?
Oui, j'en ai une. Hey, vous savez tout ce que j'ai essayé, là?
Oui, on va...
Vous pouvez pas tout me... Il y a rien que j'ai pas essayé.
Moi, j'ai peut-être quelque chose pour toi à te proposer. J'ai hâte de voir si... Oui, qu'est-ce que t'en penses? C'est quelque chose qui a été très bénéfique pour moi. On parle de tout ça au retour de la pause.
Entendu dans l'épisode précédent de La Sexploratrice.
David Paré, yes, de Elka de Séduction. Moi, le truc que je donne aux gens là, qui ont des critères à plus finir, là, je leur dis, écoute, fais-toi une liste des critères que t'as, que tu recherches chez l'autre. Écris-la, là, écris tous tes critères un à un. Lis ta liste, puis relis-la et relis-la jusqu'à ce que tu deviennes cette personne-là. Maintenant, hop, ouais, on va en enlever une coupe, finalement, tu sais.
Tu vois, moi, je le fais différemment. C'est un exercice des critères. Puis on fait, comme tu dis, on fait la liste. Là, maintenant, on va travailler tes critères non négociables. Là, tu te rends compte que sur 20 critères, 12, parce que t'en as 12, là, 12. T'en as 12 non négociables. Là, il est comme, ouais, puis j'écoute, là. Moi, j'ai vu des milliers de personnes. Là, ça fait 10 ans que je fais ça, là. Puis t'es dans les plus sévères que j'ai jamais vu ici. Ça t'allume pas de lumière. Là, là, ça prend du temps, là. Il est là, là, puis... Je répète, ça fait des milliers de personnes que je vois sur 10 ans. T'es probablement dans mon top 3 de records les plus sévères.
Mm.
Là, ils finissent par poigner deux minutes. OK, ouais, je me percevais pas comme ça. Ben, t'as le droit d'avoir autant de critères, mais viens pas brailler que ça prend plus de temps, là.
Réécoutez cette émission sur le site radiox.com, section La Sexploratrice.
La Sexploratrice.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.
De retour, chers auditeurs, avec la Sexploratrice. Mel Trudel et Max Lacasse.
Yes.
On est avec Julie Delisle et Dr Paul Simard ce soir et on vous parle d'anxiété, d'attaque, de panique et des différents troubles, finalement, qui sont en lien avec tout ça. Puis Julie est avec nous pour décrire justement un peu comment elle le vit. Mais comme on disait durant la pause, hors d'onde, en fait, tout le monde le vit différemment. C'est fou. Moi, la fois où j'ai fait une attaque de panique, j'avais l'impression que je faisais un ACV. Max, t'étais persuadée que tu faisais une crise cardiaque.
La plupart des gens racontent leur première... moi, quand je parle à des gens, là, ils racontent ça, leur première crise de panique ou crise d'anxiété, comme... Il pensait qu'il faisait justement une crise cardiaque, là, vraiment. Moi, j'ai jamais vécu ça, là. Puis j'ai jamais peur de mourir quand je sors de la maison.
Comment
là,
t'expliques? Tu as peur de quoi?
De mal filer. C'est vraiment...
T'as juste peur de pas bien filer.
Parce que c'est atroce. Je sais pas si t'as déjà fait un choc vagal ou une syncope, là. Ou en tout cas, le feeling avant de perdre connaissance, là... ça n'a juste aucun bon sens. Être en sueur comme ça, c'est
ce sentiment-là qui t'envahit lorsque ça se produit.
Moi, il faut que je sorte. Fait que, okay, avant que ça arrive, ben c'est ça. Il faut que je sorte. Puis, c'est toujours dans ma tête. Hein.
Est-ce que tu dis ça aussi des fois? As-tu l'impression d'être un peu à côté de les réflexions?
Des fois, mon chum, je disais, je me sens dans un film.
Mm-hmm.
Vraiment, tu te sens un petit peu sorti de toi-même. Là, ouais. C'est vraiment, vraiment spécial. Puis là, ben, tu as l'impression que tout le monde te regarde puis que tout le monde le sait. Alors que pas du tout. Là. Des fois, mon chum il est comme, mais non, ça paraît pas. Mais hey, dans ma bouche, ça saigne. Je suis en train de me mordre. J'essaie d'avoir des
points d'ancrage?
Ben pour me changer les idées, exemple, si je suis un petit peu plus loin de la sortie, puis là, ça, je me mets à mal filer, ben le temps que je marche vers la sortie, je vais me faire mal, vraiment. Je vais me mordre dans la bouche. Je vais entrer vraiment mes ongles dans mes... Je vais tirer mes cheveux. Je vais... pour comme changer un petit peu le mal de place. Je fais pas d'automutilation, là, jamais, jamais. Ça va être vraiment... Et une fois que je suis sortie, pouf, tout va bien, c'est correct, c'est fini, ça va.
Parce que c'est ça qui est un peu fou, en fait. C'est vraiment de se projeter et de pas être dans la réalité. En fait, il faudrait trouver un moyen de se dire, hey, là, ici, maintenant, il n'y en a pas de danger.
Ah, mais je me parle constamment. T'sais... Moi, je dis pas que je vis avec ça. Moi, je survis avec ça. Honnêtement, moi, je me considère en mode survie. Chaque heure de ma vie, là, quand je dois sortir.
Aïe, aïe, aïe!
Oui, c'est à ce point-là.
Ça,
là,
mais toi, tu ne fais pas seulement de l'anxiété. Tu as un trouble agoraphobique. Puis le trouble, il crée un handicap réel.
Complètement un handicap. Là. Moi, les restos, la dernière fois que je suis allée au resto, là, je vous dirais que ça... c'était avant la pandémie. En tout cas, ça doit faire à peu près...
Puis encore une fois, au resto, c'est la peur d'être loin de la sortie?
En fait, oui et non. C'est que là, je suis pas bien. Il y a trop de monde. J'ai chaud. J'ai de la misère à avaler parce que quand je suis stressée, c'est ça que ça fait. Là, ça fait comme super... pas stressée quand je vais faire une crise de panique, je vais dire. Ça vient tout serré dans ma gorge, les grosses sueurs, j'ai envie de vomir, la diarrhée, je veux m'écraser à terre. Okay. Ça vient tout flou.
Mais qu'est-ce que tu aurais besoin que les autres fassent dans ce temps-là? Quelqu'un qui voudrait être empathique à ton égard?
Oui, puis on en parlait un petit peu avant les ondes, là. Les gens, là, à ne pas faire, là, dire à la personne de respirer. Là. Moi, quand on me dit ça, là, je dis à la personne, toi, arrête de respirer. Comment tu te sens? Ben, je vais mourir, je me sens pas bien. Ben, exactement. T'as beau dire à la personne, respire, ça va bien aller, il n'y a pas de danger. Je le sais, premièrement. c'est de changer un petit peu les idées à la personne. Puis de voir un peu comment la personne réagit. Est-ce qu'elle veut se faire toucher? Est-ce qu'elle veut que tu mettes la main sur son épaule? Est-ce qu'elle veut que tu lui parles? Est-ce que... Toujours voir, est-ce qu'elle veut... Moi, mon chum, il est comme tout le temps, hey, regarde ça, il essaye vraiment de me changer les idées. Mais c'est ça, c'est de...
Mais toi, personnellement, parce que moi, quand je me souviens dans le passé, quand j'avais des montées anxiogènes qui devenaient tellement présentes qu'il fallait que j'agisse dans le moment présent, j'avais des techniques d'ancrage, telles qu'on peut les appeler. Là. Je m'assoyais dans une pièce, j'essayais de nommer ce que je voyais. Ou même, mm-hmm. il y a une fois, ça va sembler très biscornu et absurde, là, j'étais allé enlacer un arbre dehors. Je donnais des petits bisous, ça m'excitait. Non, mais j'étais allé enlacer un arbre, puis ça m'avait fait du bien, ça m'avait comme regroundé.
Ça t'a apaisé.
Toi, oui. Lorsque tu as une crise anxiogène qui est à son paroxysme, qu'est-ce que tu fais pour te sortir de là?
Bien, tu vois, moi, c'est ça qui est spécial, c'est qu'à la maison, ça m'est jamais arrivé d'avoir une crise d'anxiété. Donc, pour moi, c'est vraiment à l'extérieur. Donc, moi, si je me sens pas bien, puis tu me dis « va dehors dans le bois », mais je suis pas bien, là. Que je sois dehors ou en dedans, faut que je sois à la maison là, pour me sentir bien.
Est-ce que tu pourrais essayer de t'imaginer que tu es chez toi?
Ça fonctionnera pas. Je les sens plus monter. C'est beaucoup moins pire. Honnêtement, c'est vraiment moins pire parce que je m'expose de plus en plus.
Mais oui, tu viens en studio, là. C'est quand même quelque chose.
Ça, j'aime tellement ça. Puis, tu sais, je connais un petit peu la place.
Donc, c'est là qu'on voit que c'est vraiment dans la tête.
Ouais.
C'est fou.
Les grands endroits me font vraiment peur, là. T'sais. Des fois, je me dis, si j'étais tout seul au Costco, si on m'ouvrait le Costco juste pour moi, ben ça irait pas tant mieux. C'est grand, je suis pas bien. Il faudrait qu'on arrache le toit puis les murs. Là, ça serait correct. C'est vraiment spécial à expliquer. Puis je sais que c'est pas rationnel.
Et t'expliquais bien la différence avec la peur des foules également.
Oui, l'oclophobie.
Puis la peur sociale.
L'oclophobie et l'agoraphobie sont deux choses complètement distinctes.
La peur des endroits avec des gens ou des grands endroits, des grands espaces. Et oclophobie, c'est vraiment la peur des foules. Ceci dit, j'aime pas beaucoup les foules parce que c'est la sortie est loin aussi. Hein, quand on est pris dans
si on panique, en fait, ça va pas bien. Là. J'évite les foules depuis que je suis restée prise justement dans un show du Cowboy Fringant là, devant la scène. Je me suis tellement pas bien sentie que je ne vais plus jamais revivre ça.
Des Cowboys Fringants.
Mais c'est plate parce que j'adore les gens. Je suis super sociable. J'ai pas de difficulté à parler à n'importe qui. Je m'entends bien avec pratiquement tout le monde, tu sais. Fait que cette espèce d'handicap, là, c'est carrément un handicap qui vient me...
C'est considéré comme un handicap.
Ça me prend du jus, là, moi, là, au Brunet. Mettons, je fais 2-3 commissions, là. Moi, j'ai couru un marathon, là. J'arrive à la maison, là, puis c'est une belle journée pour moi. C'est une grosse journée. J'ai fait 2-3 sorties, là. Je suis allée mettre du gaz, je suis allée au Brunet, et tabarnouche, OK.
Mais tu voyages quand même?
Oui, avec du gravol puis de l'Ativan.
OK.
Je ne tripe pas aéroport. Mon chum pourrait vous en parler. Je ne parle pas.
L'avion?
Je ne parle pas du tout du voyage. Mon chum ne me parle pas. Je suis dans ma bulle. Je ne parle pas à l'aéroport. Je ne parle pas dans l'avion. Je ne parle pas. Pas un mot. Ou un mot.
Est-ce que tu te narques avec des gravoles?
Je dors pas. Non. Même si je prends toujours gravol et Ativan, c'est sûr. Fait que je suis comme un petit peu, tu sais, vraiment plus relax. Je me mets de la musique, mais je ne parle pas. Puis j'avais dit à mon chum, laisse-moi tranquille. Je vais te le dire si j'ai besoin.
Pour ton amoureux, est-ce que ça a déjà été... Lui, il s'est embarqué en couple avec toi, en toute connaissance de la situation, mais est-ce que ça a déjà été conflictuel au point de peut-être...
Ben, il ne savait pas au début.
Oui, c'est ça.
À ce point-là, non, puis j'étais pas à ce point-là non plus.
Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble lorsque tu as commencé à lui
avouer? Dans la première année, il l'a vu là aussi. Puis j'ai été pire, de pire en pire aussi. Là. Fait que... Puis moi, j'ai eu peur qu'il me laisse aussi pour ça, tu sais, parce qu'il ne comprenait pas. Il est venu à plusieurs rencontres avec moi à la psychiatre et il a compris énormément de choses. Mm-hmm. Puis il n'a pas confondre avec une manipulation non plus. Hein. Tu sais, les gens vont penser des fois que c'est de la manipulation. C'est vraiment... Il voit, là. Tu sais, je ne manipule pas. C'est vraiment... c'est là, puis
est-ce que c'est quelque chose avec lequel il faut que tu composes de penser que les gens pensent que te victimises? Pour te défiler de certains événements,
oui,
pour pas te présenter.
Oui,
à certains,
j'ai souvent très peur que les gens pensent que exactement que c'est comme bon encore à la nulle ou tu sais bon c'est ça tu sais lâche ou Parce que moi, je suis pas capable d'avoir une job 40 heures normale. T'sais, moi, j'ai eu deux, trois jobs, là, mais il y en a de la maison, il y en a qui sont trop loin.
Parce que je disais, faire de la radio, va prendre un cours.
Mais d'aller prendre le cours et être en classe, là, moi, je ne vais même pas au cinéma là, parce que c'est vraiment ça, énorme d'être assis et me concentrer. Pis...
Ouais,
mais tu sais, c'est plate, mais mon chum est merveilleux, honnêtement. Puis je dis tout le temps, je suis pas normale. T'sais, puis il dit non, tu es juste différente.
J'aurais aimé ça qu'il soit là pour nous partager son...
Mais il est vraiment génial.
Vécu, lui.
Il m'aide vraiment beaucoup.
Puis j'imagine, là, on va aller dans le perso un peu, mais j'imagine que ça a aussi un impact sur la sexualité. Il veut pas...
Énormément, la médication aussi.
Enlève la libido.
Malheureusement, ouais. Puis la fatigue aussi, hein. Tu sais, on a comme moins le goût et tout. Puis c'est pas de la faute de l'autre, mais la médication, la fatigue, tout le stress que ça amène d'être tout le temps en... à checker. T'sais, moi, j'arrive quelque part, c'est comme, OK, la sortie est là, il y en a un autre là, les toilettes sont là. Oh, j'ai chaud, j'ai froid. C'est pour ça que moi, j'ai toujours soit une camisole. Moi, j'aime mieux geler.
Je pensais que c'était ton style sportif.
Non, moi, je veux toujours, même de... l'hiver, là, c'est sûr que je vais être en T-shirt en dessous de quelque chose parce que si je me sens pas bien, ben je peux me déshabiller.
Mais parlant de médication, tu disais que ça fait 5 jours que tu as commencé un nouveau médicament. T'en as essayé combien? Hey, ça veut-tu dire qu'il n'y a rien qui marche?
Il y en a qui ont aidé, oui, mais les effets secondaires deviennent handicapants encore plus.
Ouais.
Les doses et tout et tout. Et moi, je ne veux pas être sédatée. T'sais, je prends déjà des benzos pour dormir, donc le matin, c'est difficile pour moi. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui m'active un petit peu plus, mais qui ne me rend pas anxieuse non plus. Donc, c'est ça, on fait vraiment des essais.
Puis tu dors pas bien, là, par nuit, tu dors...
Je peux me réveiller une dizaine de fois, là, même avec les benzos. Ouais. Mais j'ai moins de longues périodes d'insomnie. Là, comme avant, je me levais, mettons, à 2-3 heures du matin. J'écoutais les reprises de choix, vraiment. Là, tu sais, souvent, je taguais Paul parce que j'écoutais des reprises. Parce que j'avais rien à faire, tu sais, je peux pas bouger, mon chum dort. Mais maintenant, je suis capable de me lever à 5 heures, environ 5h30.
As-tu déjà essayé l'acupuncture?
J'ai tout essayé. Acupuncture, hypnose avec 4 hypnothérapeutes. Je pense que vous pourriez me nommer, tu sais, le CBD, différentes huiles. La seule affaire que j'ai pas essayé, c'est des grosses drogues, là, ce que je ferais jamais.
Champignons magiques, as-tu essayé en microdose?
Non, j'ai trop peur de justement de faire une crise de panique.
Moi, j'aimerais ça essayer. On pourrait l'essayer ensemble.
Faudrait que ça se passe.
C'est un empoisonnement alimentaire, fait que, ça risque de jouer sur
j'ai
la
peur
crainte
de
d'être malade.
Ouais, c'est vrai. En tout cas, j'ai une amie, Karen, pour ne pas la nommer, qui a pas... Microdose, elle dit, ça, j'en ai pour une semaine à bien filer.
Oui.
Mais j'ai tout essayé.
Oui, ben oui.
Max, t'es d'accord avec ça?
Les propriétés seraient pour d'autres genres de difficultés.
Post-traumatique, peut-être
ça.
Plus.
Hein? C'est ça, pour la neuroplasticité, c'est que ça favoriserait une régénérescence ou une formation de nouveaux circuits synaptiques. Oui. Puis c'est comme changer son mode de vie sans changer son mode de vie, dans le fond.
Oui, puis c'est surtout que les études sont encore très bénignes à cet effet-là. On dit aussi que l'utilisation de micro-doses de champignons magiques sur une longue période de temps pourrait endommager la mémoire à court terme, mais bon, qui dit vrai?
Oui. Puis moi, c'est sur les drogues. Ça m'a tout pris prendre du Ritalin ou du Concerta.
Mais c'est ça, mais des fois, tu n'as juste pas le choix de te résigner.
Mais oui.
À quel point ça m'aide, c'est une béquille. Hein. On s'entend qu'il n'y a pas de pilule magique. C'est pas
ça ne te guérira pas, ça va atténuer.
C'est
pas une comme dirait les rôles
exactement.
Le
faut pousser, faut se travailler. C'est ça, c'est vraiment.
Ça va atténuer les symptômes. Mais. Oui, c'est ça. Mais tu pourrais guérir quand même de l'anxiété. On peut en guérir.
Moi, je crois pas que je vais un jour, non. Mais ça l'a déjà tellement diminué, je suis tellement fière que c'est des petites victoires. Mais je suis un type anxieux, je suis un type stressé.
Ouais.
Donc, non.
Docteur Smart, c'est changer son discours intérieur et qu'elle se disait qu'un jour, elle va se libérer de ça. Est-ce que tu penses que ça pourrait l'aider?
Laisse le discours à Julie tranquille.
Non, mais sans blague, j'aurais... est-ce que de se dire non. que je suis prêt avec ça pour la vie, inévitablement, ça va faire en sorte que...
Non, mais pour connaître un peu Julie, je pense qu'elle a fait beaucoup de travail sur ça. Si ça avait été un problème de mindset, ça ferait longtemps que ça serait réglé. Donc, il y a des gens qui portent des fragilités biologiques à être vraiment plus déclenchés ou plus activés. C'est ça, voilà.
Okay.
C'est pour ça qu'il faut plutôt parler de gestion de l'handicap. Apprendre à peut-être faire des réductions de dommages, à encadrer, s'exposer, se sensibiliser, mais il faut aussi être réaliste. Là. Il y a certaines formes d'atteinte parfois qu'on va devoir composer avec.
C'est neurologique, biologique?
Longtemps. C'est ça, c'est qu'il faut vraiment le voir comme étant quelque chose de neurologique puis du système nerveux autonome. Ce n'est pas une question de mindset, de pensée.
Mais il y en a pour qui c'est ça.
Exact,
ça peut être
parfois,
le mindset,
oui.
la pensée.
Voilà.
Alors que d'autres... Hey, ça doit être difficile justement pour les proches de comprendre tout ça.
Ils comprennent pas.
Non, puis c'est difficile à expliquer parce que même moi, je me comprends pas. Là.
Exact.
Aïe, aïe, aïe.
Je me parle, puis je suis comme, rien, c'est ridicule.
Donc, le mieux pour une femme comme Julie, quelqu'un qui est aux prises avec les mêmes problèmes, est-ce que c'est de diminuer les facteurs de risque?
On va y demander.
Ben, je dirais que non, parce que pendant la pandémie, justement, j'ai tellement peu sorti. Ça a été atroce quand j'ai dû ressortir. Moi, je pouvais être une heure et demie là, devant le Brunet à me dire... OK, je vais y aller. OK, je vais y aller. Oh non,
c'est ça, c'est que t'as installé beaucoup de confort autour de ça. Puis là, t'es devenu tellement habitué d'être dans ton confort que dans le monde, ce qui, pour certaines personnes, est c'est même pas un défi. Exactement. Mais pour elles, ça la déclenche dans ses
réactions. Recommencé tranquillement à aller à la malle, qui est comme une minute à pied, mais je me sentais pas bien. Puis c'était dehors, là, tu sais, au grand air.
Ça, c'est
là.
Fou. Qu'est-ce qui peut t'arriver en allant à la malle? Rien, je sais. Hot, là, à quel point
c'est...
Ouais.
Ça, c'est
notre
une raison
mental
logique.
Parle,
ouais. C'est vrai. Puis les gens qui font des crises d'anxiété le savent logiquement.
Mais oui. Mais dans le moment, le corps réagit comme s'il y avait un danger.
C'est complètement ridicule.
Oh, c'est pas le fun. Hein?
Ouais, ouais.
Les gens sont là, vous êtes tellement gentils. Les gens veulent vraiment te proposer des trucs. Là. Bon, le cannabis thérapeutique. Merci. 418-660-9098. Donc, ça, tu l'as essayé. Docteur Simard, je ne sais pas si peut-être la méthode ECHO de Jean-Charles Grombez, est-ce que ça dit quelque chose?
Non.
Non, c'est une méthode créée par un psychiatre. On aimerait avoir plus d'informations là-dessus.
Bien, j'ai déjà entendu parler de ça. C'est une méthode française. Je sais qu'ils ont incorporé le nom, qui fait qu'on ne peut plus utiliser l'acronyme ECHO maintenant à cause de ce psychiatre-là.
Ah ouais?
Fait, déjà là, moi, j'ai arrêté de réfléchir.
Le neurofeedback.
J'aimerais vous proposer, moi, un autre acronyme, qui est l'acronyme CINÉ.
CINÉ?
Oui,
okay. C'est un acronyme d'ancrage?
Ouais, c'est un acronyme pour comprendre les facteurs qui fragilisent les gens dans le stress ou l'anxiété. Fait que C pour... contrôle, parce que si vous n'avez pas le contrôle, c'est normal que ça vous fragilise. I pour imprévisible, parce que si on ne peut pas prévoir qu'est-ce qui s'en vient, il va-tu avoir un stationnement, il va-tu avoir une sortie, ça nous fragilise aussi. N pour nouveauté, parce que si je ne suis jamais allé à cette affaire-là, puis que je ne connais pas ça, celui-là, c'est normal que ça me fragilise. Puis E pour égo, parce que quand on fait critiquer notre égo, qu'on se fait dire par quelqu'un, mettons, « Ah, franchement, tu fais encore une crise! » ou qu'on se fait dire « T'es pas bon dans ce que tu fais! » Bon, bien, ça menace notre ego. Donc, on résume les quatre lettres. C'est pour identifier ce qui est normal de déclencher vos fragilités. C pour contrôle. I pour imprévisible. N pour nouveauté. Puis E pour ego. Puis les hommes ont un ego très fragile, d'ailleurs.
Oui, on pourra en reparler. Ça aussi, d'ailleurs, dans un autre, dans un autre épisode. Mais tout à l'heure, tu me disais que des systèmes d'ancrage, c'est pas ça la solution.
Bien, je pense que c'est un peu surutilisé, puis ça a la bonne presse, là. C'est que c'est relié avec la pleine conscience, puis des méthodes de relaxation. Mais ça, utiliser des méthodes de relaxation, c'est souvent possible lorsque ça va bien, puis que vous voulez optimiser votre mieux-être. C'est pas des techniques qu'il faut utiliser en état de crise.
C'est impossible, en fait, de le faire. Il faut se pratiquer vraiment avant, dans le fond, activer notre système parasympathique,
oui,
je crois.
C'est ça.
Non, c'est une job à temps plein, moi, ma condition.
Et moi, j'aime bien dire que le meilleur des ancrages, c'est avoir une routine. Oui. Parce qu'en ayant une routine, vous êtes en train de travailler sur les facteurs qu'on a dit. Là. Vous avez un certain contrôle. Mm-hmm. Vous savez ce qui s'en vient, donc c'est prévisible. C'est pas nouveau. Fait que vous êtes familier avec la patente. Puis si c'est vous qui avez décidé, puis qui décide, ben dans le fond, mon ego est protégé.
Les célibataires, plus un célibataire vieillit avec le temps... Parce que c'est quand même une des situations les plus anxiogènes dans la vie d'un humain, de partir à la rencontre d'une nouvelle personne dans le but d'éventuellement de former un couple.
Les hommes ont tellement peur d'aborder aujourd'hui.
Les hommes, les femmes aussi. Ce que je lisais, c'est que 50 ans et plus, là, surtout, les gens vont parfois même éviter d'aller à la rencontre d'une nouvelle personne tellement ils sont stressés et qu'ils sont
perdu la twist ou tu sais, si ça fait 40 ans que t'es avec quelqu'un.
Ça les rend anxieux, juste l'idée de rencontrer quelqu'un. Donc, ils préfèrent rester dans leur zone de confort et rester seuls plutôt que d'aller à la rencontre d'une nouvelle personne en zone inconnue.
C'est du trouble à gérer.
C'est tellement triste.
Comment ça, triste?
C'est triste.
Oh, mais c'est parce que d'un coup que ça se passe mal.
d'un coup,
on n'aurait pas vraiment de raison de s'approcher de quelqu'un qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. Fait que là, l'idée de rencontrer à nouveau quelqu'un, c'est comme se confronter à la possibilité que là, on est en dehors d'un rôle, on ne sait pas trop ce qui va se passer, je la connais pas. Fait que l'anxiété embarque.
Ça, c'est drôle, en dehors des zones, je disais justement, tu sais, le mode, tu sais, rencontrer quelqu'un, entretenir les débuts de la relation, oui. Tout ça. Moi, j'aimerais ça skipper tout ça, puis tout de suite...
non. Tomber dans son lit.
Ça ferait bien, là, avec mon nouveau mode de vie. Tu sais, skipper toute la période...
Mais non, il y a tellement du beau là-dedans, même
temps. Mais oui, vraiment. Non, c'est juste, tu sais, on est en... Ben, chacun ses désirs, chacun ses modes dans la vie. Moi, je suis dans un mode où la rencontre pas du tout en ce moment. Là,
est-ce que c'est pour ça que d'habitude, tes amoureux, c'est des anciennes amies depuis longtemps? Confrontation en direct.
Une zone de confort, une zone
mais...
de...
C'est que ça répète un peu ton fantasme là, de voir que... Ah tiens, on peut sauter tout de suite dans de l'intimité.
Je le connais déjà, lui-là.
Peut-être?
Ben moi, je pense que oui.
Mais c'est pas fou.
Tous les amoureux que j'ai eus sont des gens que je connaissais, qui étaient des connaissances.
Ben oui, c'est
ou
ça.
Des amis de longue date qui sont devenus un amoureux et que j'ai quitté pour redevenir un ami. C'est tout à moi qui a quitté toutes mes relations.
Voilà. Fait que dans le fond, là, tu as ton schéma de gestion de l'intimité.
Un sacré pattern.
Fait que la prochaine fois...
Je mets en couple avec mes amis pour les faire redevenir des amis après.
Exact. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir maintenant avec l'accès à l'intimité versus l'ouverture au monde.
Mais j'ai aussi des partenaires que je connais pas, mais ça c'est pas des amoureux, c'est plus des partenaires de jeu, tu sais.
Et si ton partenaire était anxieux?
Mais là, je t'en pose de tout. Là. J'ai mis une pause avec tout le monde.
Pour une fille comme Julie qui vit de l'anxiété généralisée, avant que tu rencontres ton chum, c'était comment rencontrer?
Moi, j'ai aucun problème à rencontrer du monde. Moi, je suis tellement sociable. Moi, je parle à tout le monde.
Mais oui!
Puis même
je connais
dans
même
une
des
salle
gens
d'attente,
que t'as d'été.
Ouais.
Il n'y en avait pas de problème.
On n'aura pas de nom, mais moi, c'est ça. c'est ça. Je parle à tout le monde. Dans une salle d'attente, ça va même désamorcer le stress. Moi, une salle d'attente, c'est la fin du monde. Là. Mm-hmm. Aller à la SAAQ, là, tu sais. Moi, si je peux me spotter quelqu'un que je pense que je pourrais peut-être parler, m'aller m'asseoir à côté. Parce que ça va passer le temps, justement.
Mais oui.
Ou je vais avoir mon téléphone ou quelque chose. Okay. Ouais, mais tu sais, je serai pas attentive. Mais si je peux parler à quelqu'un, ça désamorce, ça met mon attention ailleurs. D'ailleurs, un animal va faire ça, un bébé va faire ça. Je me souviens d'être allée au Costco avec ma nièce qui ne marchait pas encore, était dans le panier. Puis mon attention était tellement sur elle que j'ai été au Costco. C'est fou, là.
Oui, fait que c'est vraiment de se trouver un but. Comme tu disais, Paul, dans un mode public, parce que toi aussi, ça t'arrive parfois, et tu trouves un but, puis ça te permet... d'être là et d'être dans le moment présent.
Moi, j'aime pas les
foules.
Hors
de danger. Paul n'aime pas les foules.
Non, moi, je ressens de manière empathique.
Tu te sens pris.
Plein de monde autour. Non, c'est parce que je ressens le feeling émotif de pas mal tout le monde autour. Et c'est super pratique d'avoir un détecteur d'aussi grande sensibilité quand je travaille en thérapie. Comme ça,
est-ce que c'est parce que tu es hypersensible?
Ben, d'une certaine manière.
Qu'on appelle...
On pourrait faire une émission entière sur l'hypersensibilité.
Oui,
mais
j'aimerais ça.
Je suis curieux de ça, ton hypersensibilité. Est-ce que tu ressens vraiment, est-ce que tu as l'impression de vraiment ressentir les sentiments des gens ou c'est plutôt tes propres sentiments que tu reflètes dans le regard des autres?
On tombe-tu dans la spiritualité, genre?
Non.
Okay.
Mais c'est dur à comprendre parce que c'est comme si je te disais, quand tu es stressé, est-ce que tu te souviens comment on se sent bien quand on se réveille le matin? Non, hein? C'est un peu la même chose, c'est que par moment, moi, quand je vais bien, là, que je me suis... j'ai bien pris soin de mon corps, j'ai fait du gym, j'ai bien dormi, je suis de bonne humeur, bien, parfois, là, je rentre dans la salle de thérapie puis je sens déjà à l'intérieur de moi qu'est-ce que la personne porte comme tension à l'intérieur d'elle. Mais il suffit que j'aille pas bien dormi, que j'ai eu un conflit avec quelqu'un, là, ça fait réduire ma capacité d'empathie parce que je suis stressé ou mon corps est en crise. Donc, c'est pas une question de spiritualité, c'est une question de sensibilité. C'est relié avec le système nerveux parasympathique. Donc, la capacité d'être détendu, relax, disponible. Alors que si je suis stressé, c'est mon système nerveux sympathique. Donc là, je suis déjà tout mobilisé, mes ressources, là, par les réflexes de survie. Donc, il faut apprendre à modeler cette ressource-là. Puis c'est vraiment surprenant ce qu'on peut ressentir autour de nous lorsqu'on est dans un état de réceptivité, de qualité de présence.
Qu'est-ce que tu penses de l'hypnose?
C'est réputé pour deux choses.
Vas-y.
La gestion de la douleur et la relaxation.
OK. Mais est-ce que l'hypnose pourrait aider dans un cas comme Julie ou quelqu'un qui est très, très anxieux? C'est une question d'un auditeur.
Je pense qu'elle a déjà essayé.
Ouais, avec quatre thérapeutes différents. J'ai même voulu me rendre à la EDMA, je crois, le mouvement avec les yeux. Là,
EMDR.
Ouais. EMDR, oui. Mm-hmm.
Qu'est-ce que le EMDR?
C'est le, dans le fond, c'est une thérapie qui vient un petit peu désensibiliser avec un mouvement avec les yeux.
Un mouvement
nous font
des yeux de manière horizontale. Puis ça, ça le fait de bouger les yeux de gauche à droite de manière perpétuelle en racontant l'histoire, c'est que ça réactive les aires du cerveau qui s'occupent de la gestion du stress. Puis ça favoriserait la, entre guillemets, là, je mets des guillemets, digestion du souvenir dans la mémoire de travail à long, dans la mémoire à long terme, pardon. Donc, ça reproduit, l'hypothèse, c'est ça, c'est que ça reproduit ce qui se passe dans notre sommeil lorsqu'on a une phase de mouvement des yeux, là, d'agitation.
Oui,
là, ça,
oui.
Bon, ben ça, ce serait, entre guillemets, un moment où on encode les souvenirs de la journée dans notre mémoire à long terme. Mais il y a des thérapies, comme EMDR, qui favorisent le traitement des chocs post-traumatiques par ça, par le mouvement des yeux latéral. Puis c'est vraiment surprenant, mais il y a plein de documentations scientifiques maintenant.
Très intéressant, j'avais jamais entendu parler de ça. Toi, Max?
Non, j'avais jamais entendu parler de ça.
Hey, j'en apprends des choses à soir, là. Quelqu'un demande sur le line si tu as déjà fait... en fait, si tu as déjà été diagnostiqué pour l'apnée du sommeil.
J'ai déjà fait des...
des
j'ai
tests?
Fait... Oui et non, là, c'est pas... non, je n'en fais pas, là.
Ah, t'es sûre que t'en fais pas?
Pas du tout. Okay. En fait, moi, je suis pleinement consciente, réveillée. Donc, c'est pas comme si j'ai l'impression que j'ai pas dormi. C'est je suis assise dans mon salon, là, je ne dors pas, là, tu sais.
Mais quand tu te réveilles, tu penses pas que ça peut être dû à l'apnée du sommeil, mettons?
Non, c'est que je suis... j'ai un sommeil hyper léger. J'ai l'impression que je suis toujours en hypervigilance.
Oui, OK.
J'entends tout ce qui se passe malgré mes bouchons et tout. Je pense vraiment en hypervigilance toujours. J'ai de la misère à tomber dans un sommeil profond. Ouais.
OK.
Très léger, incapable de faire de sieste en journée, même si j'ai eu une nuit blanche. Là, brûlée, là, c'est impossible.
Tu les suis des bruits blancs ou des.
Les white noise, des fois, oui. Des fois, je me mets des hypnoses ou quelqu'un qui est ASMR. Là, qui
donc, avec un fan.
Qui parle doucement. Des fois, ça va m'aider à m'endormir.
C'est ça, les white noise?
Oui.
Oui, c'est ça, exact. C'est ça, c'est pour combler le vide.
Il y a les
vide.
Brown, il y a les pink, il y a toutes les noise.
Je faisais
mais...
ça de l'ASMR, moi, avant d'être psychologue, d'ailleurs.
Ben non.
C'est vrai?
Oui.
C'est vrai?
J'étais l'artiste ASMR le plus populaire au Québec.
Je trouve ça tellement malaisant de regarder de l'ASMR, mais mon Dieu que ça fait du bien.
Mais il y a plusieurs sortes d'ASMR. On fera une émission là-dessus.
Oui, on fera une émission sur l'ASMR, une émission sur l'hypersensibilité, une émission sur les phobies. Les on phobies, en a des projets. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande si tu as déjà communiqué avec le regroupement Panique Zéro. Oui. Sa femme serait débarrassée de ses crises de panique. Ah oui?
Oui, j'ai lu le livre de la femme qui a parti ça.
Donc, Panique Zéro, oui. C'est un regroupement qui aide les personnes anxieuses.
Oui, puis on peut, dans le fond, on paye un tarif, puis on peut se regrouper là, sur Zoom et parler avec d'autres gens comme ça. Mm-hmm. C'est ça, c'est une dame qui, elle, s'en est sortie par elle-même, je crois, qui a parti ça. Il existe des groupes, des choses comme ça. D'ailleurs, je vais rencontrer, j'ai rendez-vous avec une travailleuse sociale de Lévis là, qui va s'occuper un petit peu de mon cas. Parce que ça devient dispendieux hein, de se payer
mais
des
oui.
thérapies avec les psychologues et tout.
Surtout dans ton cas, j'imagine. Ah, ben non, mais peut-être que tu as des assurances avec ton conjoint, mais c'est pas tout le monde
non,
qui a des assurances.
C'est ça, puis c'est que ça, c'est pas juste 3-4 rencontres. Hein.
Non.
Fait que c'est ça, j'ai demandé un petit peu d'aide là aussi, de choses qui pouvaient être. Tu sais, juste des fois d'en parler, ça fait tellement du bien, même si.
Mais partir un blog là-dessus, c'est pas quelque chose qui t'allumerait?
Bien, honnêtement, là, moi, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais mieux faire des conférences. Ça, je disais à Paul tantôt. Moi, j'aime mieux être devant, sur la scène, que dans la foule. Je vais être bien moins stressée de
mais
parler que d'être assis dans une foule. C'est drôle, hein? T'sais, moi, venir ici, c'est pas stressant. Parler à la radio, c'est de monter au troisième étage puis venir ici, là. Fait que c'est un peu spécial à...
C'est fou à quel point tout est dans la perception, notre façon d'analyser, de voir, de vivre les choses.
Bien, on est sensible. Puis dès qu'on apprend à connaître nos sensibilités, c'est là qu'on va peut-être pouvoir s'aménager un mode de vie qui nous respecte. D'abord, faire de l'acceptation de soi avant
c'est
de se forcer.
C'est vraiment difficile. Hein. Moi, je me tape ça à la tête. Je me traite de anormal.
Mais ça, tu te fragilises encore plus, on pourrait dire, dans ce temps-là.
Mais c'est difficile parce que je voudrais tellement être normale. T'sais.
Lorsque tu es confrontée à des grandes épreuves dans ta vie, est-ce que tu dirais que tu es plus résiliente maintenant à cause de toutes les nombreuses crises que tu as vécues qui t'ont, j'imagine, amené à être un peu plus résiliente par rapport à la vie ou c'est pire?
Résiliente? Je pense que c'est pire dans le sens parce que j'ai... Ça me fait chier, honnêtement, de devoir souvent canceller des soupers. J'ai vraiment de la misère à aller souper aussi chez les gens. Puis ces temps-ci, je suis tellement fatiguée qu'à 5 heures, c'est comme c'est fini, là. Mais j'ai une certaine résilience dans le sens que quand ça va bien, je suis contente. Ça, tu sais, j'ai comme un peu appris à vivre avec, oui.
Es-tu capable de les prévoir?
Si je sais que je dois aller chez le dentiste demain, je passerai pas une belle nuit, ça va mal aller. Je vais me prendre un attivant avant d'y aller parce que je suis comme prise sur la chaise. Donc là, je vais anticiper. Mais maintenant, il y a des petites places que je suis capable d'aller comme au dépanneur, au Brunet, puis j'y pense presque plus. J'y vais, puis ça se fait vraiment, en tout cas, habituellement très bien.
As-tu déjà lu Le pouvoir du moment présent?
Ben oui, d'être cartolé. Ben oui, je l'ai lu, je l'ai écouté.
On le relit. Ça, c'est un livre, mesdames et messieurs, que vous devez à tout prix vous procurer. Ça change notre mindset. Est-ce que ça t'a aidé quand même un peu?
Pas tant, parce que j'ai trouvé que c'était très spirituel.
OK. Oui! Ouais. Ah non!
J'étais moins spirituelle dans ce temps-là, je crois. OK. Et je le suis maintenant. Ouais.
OK. Quelqu'un demande, Dr Simard, s'il y a un lien entre le trouble du spectre de l'autisme et l'anxiété. Je pense qu'un spectre de l'autisme peut contenir de l'anxiété, mais c'est pas systématique.
Le trouble du spectre de l'autisme, comme ça dit, c'est un spectre. Donc, il y a une couverture très, très large au niveau de la manifestation de l'autisme. Puis, il faudrait inviter un spécialiste là-dessus, mais c'est pas ma méga spécialité. Mais je vous dirais que oui, souvent, les personnes qui vont souffrir de neuroatypie, donc de fonctionnement neurologique pas comme la norme, en guillemets, bien, ils peuvent éprouver des problèmes d'interface de toutes sortes. Donc, l'interface sociale, c'en est un. Interface alimentaire, c'en est un autre. Interface de loisirs, interface des champs d'intérêt.
Les textures, c'est complètement fou.
Il y a une des hypothèses que j'aime bien, moi, en neurosciences, là-dessus, sur l'autisme, ce serait relié avec les difficultés de synchronisation des différents circuits dans le cerveau. Alors qu'une personne neurotypique, elle, ses circuits neurologiques seraient capables de synchroniser ensemble de manière fluide, en guillemets.
Dans le fond, les synapses.
C'est des circuits, c'est pas juste les synapses. Okay. Là. C'est comme des chemins ensemble qui synchronisent, qui fonctionnent bien en même temps.
Comme des lumières de Noël.
On pourrait dire que les feux de circulation sont tous bien setés ensemble puis on pogne jamais de lumière rouge.
Okay. Écoutez, c'est un sujet qui est vraiment intéressant, pertinent. Les gens sont... Ça réagit sur le TikTok, ça réagit sur le live. Julie, merci beaucoup. Je pense qu'on va te réinviter pour parler de plein de trucs. Dr Simard, psychologue, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Merci, Max.
Merci à toi.
On vous invite fortement à réécouter notre épisode également sur le TDAH avec Véro la sexo. On s'en est fait parler énormément. En fait, réécoutez tous les épisodes de La Sexploratrice en ligne au radiox.com, section La Sexploratrice. Et mon Dieu, vous continuez de nous écrire sur le live. Merci tout le monde pour votre grande participation. Merci d'avoir été à l'écoute. Et demain soir, 22h, La Sexploratrice. Bonne fin de soirée.
Avec Mel Trudel.